Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Chers frères, notre Seigneur appelle tout homme qui veut aller au ciel à travailler ici-bas, à s'adonner au travail. Et de fait, le travail occupe dans notre vie une grande place. Nous y sommes adonnés depuis notre plus tendre enfance sous des formes diverses et nous lui consacrons les plus grandes parties de nos forces. Voyons en tout premier lieu que nous sommes tenus de travailler. Pourquoi cette obligation ? Premièrement, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, et Dieu, lui, opère sans cesse. Bien que Dieu soit immuable et qu'il n'y ait en Dieu aucun changement, Dieu est toujours souverainement actif. Les philosophes disent que Dieu est acte pur, c'est-à-dire toujours agissant. C'est le simple opposé, l'opposé le plus radical qu'il y a avec le néant. Le néant, lui aussi, est immobile, il n'y a aucun changement, mais il ne se passe rien. Dieu, au contraire, agit toujours. Et en nous créant à son image, Dieu a voulu que nous aussi, nous soyons agissants, nous soyons travaillants. Et il a inscrit au plus profond de notre nature ce devoir de travailler, ce besoin de travailler. Il est écrit au livre de Job, « L'homme naît pour le travail comme l'oiseau pour voler. » Et c'est pourquoi, même avant le péché originel, Adam devait travailler dans ce paradis de délices. La Sainte Écriture dit bien que Dieu prit l'homme et le plaça dans le paradis de délices pour le cultiver et le garder. Mais bien sûr, ce labeur était sans peine, sans douleur, sans aucune difficulté. Dieu a pourvu tout homme de facultés corporelles, intellectuelles, pratiques, artistiques, que nous avons le devoir de cultiver. Et c'est la deuxième raison pour laquelle nous devons travailler. Un enfant a besoin de courir, de bouger, de toucher les objets qui l'entourent. C'est comme ça qu'il se construit, c'est comme ça qu'il grandit, c'est comme ça que ses facultés progressent. S'il ne le faisait pas, il serait anormal. N'importe quel artisan, c'est en travaillant qu'il acquiert son art. Prenez un ébéniste, un serrurier, c'est au fur et à mesure qu'il travaille qu'il va se perfectionner, devenir un maître dans son métier. Il en est de même pour le mathématicien, pour le philosophe. C'est à force d'étudier, de travailler, qu'ils vont devenir des savants, des docteurs. Et c'est là tout le sens de la parabole des talents. Nous devons faire fructifier les talents que le bon Dieu nous a donnés et ne pas les enterrer. Seulement, voilà, depuis le péché originel, tout est devenu difficile, tout est devenu pénible, le travail nous coûte. Et c'est à chacun d'entre nous que le bon Dieu a dit « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front ». Et si le travail nous est maintenant obligatoire, ce n'est plus seulement en tant que nous sommes des hommes, que nous avons une nature humaine, que la loi du travail est inscrite au plus profond de nous, c'est aussi parce que nous sommes des pécheurs et que nous devons réparer nos péchés, expier nos péchés, par le côté pénitentiel du travail. Le travail a maintenant une signification et une activité rédemptrice pour le ciel. Et voyez, cette loi du travail n'est pas seulement pour les pauvres, qui doivent travailler pour manger, sinon ils ne pourraient vivre. Cette loi du travail vaut aussi pour les riches et les puissants de ce monde. Saint Bernard avertissait son ancien disciple, un ancien frère de sa communauté, qui était devenu le pape Eugène III, Homo natus ad laborem, non ad honorem. L'homme est fait et né pour le travail, non pour les honneurs. Et vous prenez la vie de tous ces saints rois, de ces saintes reines, et vous voyez qu'ils ont travaillé. Prenez par exemple Sainte Élisabeth du Portugal, elle consacrait ses temps libres à faire des habits pour les pauvres ou des ornements pour les églises. Elle n'y était pas tenue, elle vivait dans l'opulence, elle avait des serviteurs, mais elle a voulu travailler de ses mains. Et le travail, par son aspect de pénitence, remet constamment sous nos yeux notre déchéance, notre condition de pécheur. Il faut nous assujettir à ce travail, à ce labeur pénible. Et rien de tel que le travail pour nous maintenir dans l'humilité. De plus, celui qui se laisserait aller à la nonchalance, à une vie facile, qui ne ferait rien, qui plongerait dans l'oisiveté, deviendrait une proie facile aux tentateurs, aux démons, et il serait sans force face à ces attaques. Les anciens religieux avaient pour principe de ne jamais rester sans rien faire. Aux longues veilles, aux longues prières, ils passaient immédiatement au travail de leurs mains. Et Cassien, auteur ecclésiastique qui a connu les anciens pères du désert, donne la raison. Le religieux qui travaille n'a qu'un démon pour le tenter. Celui qui ne travaille pas en a une infinité pour le perdre. Et cela ne vaut pas que pour les religieux. C'est tout homme qui doit être trouvé au travail s'il ne veut pas que le démon le fasse tomber. Et que de chute misérable, faute d'avoir su s'occuper. Il existe, en outre, un motif encore plus haut qui doit nous pousser à travailler de tout notre cœur. C'est l'exemple que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci tant pendant sa vie cachée, à Nazareth, que sur les routes de Palestine pendant sa vie publique. Et notre Seigneur n'a vraiment pas ménagé sa peine, que de fatigue dans ses courses apostoliques. Nous le voyons accablé de sommeil, dormir, pendant la tempête qui se lève sur le lac de Génézareth. Nous le retrouvons au puits de Jacob, s'appuyant lourdement sur la margelle du puits, tellement il est fatigué et la soif le travaille. Et si notre Seigneur a voulu pendant sa vie s'adonner au travail, c'était bien sûr, encore une fois, pour imiter la vie de son Père céleste, mais c'était aussi pour nous donner à nous, pour donner à notre travail, lui qui est sans péché, sa valeur, son efficacité rédemptrice. Mais ce n'est pas tout travail, ni toute manière de travailler qui nous conduira au ciel, qui nous rendra agréable à Dieu. Et que faire pour que les différentes occupations auxquelles nous nous adonnons soient vraiment agréables à Dieu ? La première condition, la condition sine qua non, c'est d'être en état de grâce, d'être dans l'amitié du bon Dieu. Saint Paul explique bien que sans la charité, et c'est-à-dire sans la grâce qui met la charité dans nos âmes, tout ce que nous faisons ne vaut rien pour le ciel, strictement rien. Tout homme qui n'est pas en état de grâce ne travaille pas pour le ciel. Mais ce n'est pas tout, il faut encore préciser. Bien sûr, il faut être en état de grâce, mais même en état de grâce, on peut travailler et cela ne peut rien rapporter sur le ciel. Un peu comme si nous essayions d'écoper de l'eau avec une passoire. Le plus important pour nous, une fois que nous sommes en état de grâce, est d'avoir une réelle pureté d'intention. Dans notre travail, que recherchons-nous ? Sommes-nous comme les avares qui, en travaillant, recherchent le gain, le profit, ou comme les voluptueux qui cherchent à contenter les plaisirs des sens, ou bien comme les orgueilleux, qui recherchent leur gloire. En un mot, nous recherchons-nous dans notre travail? Et qui peut assurer qu'il ne se recherche pas? Qui peut assurer qu'il est sans amour-propre, alors que les saints disent que l'amour-propre meurt un quart d'heure après notre propre mort? Pour nous défaire de cette recherche de nous-mêmes, qui vicie tous nos actes, ou la plupart d'entre eux, notre Seigneur nous exhorte dans le Cantique des Cantiques par ces paroles. Poneme ut signaculum in cor tuum et super brachia tua. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur et sur tes bras. Ce sceau sur nos bras qu'il nous faut poser, c'est dans notre activité, travailler pour Dieu. Et ce sceau sur notre cœur désigne l'intention que nous devons avoir pour Dieu. Pour arriver à cela, il est bien évident qu'il faut, avant le travail, offrir son travail, prier, se mettre en présence de Dieu, demander à Dieu d'agréer notre travail, de purifier notre intention. Et d'ailleurs, tout travail, en tant qu'il est une peine, devait être un sacrifice offert à Dieu. Saint Augustin dit à ce sujet « Qui laborat orat, celui qui travaille prie aussi, ou devrait prier. » Et pareil, à la fin du travail, nous devrions revenir à la prière pour remercier pour le succès, demander pardon pour les négligences, ou tout simplement nous remettre en présence de Dieu. Et voyez-vous, un signe qui est sans équivoque, qui ne nous laisse sans aucune illusion. C'est la manière dont nous réagissons face aux échecs et aux succès. Un succès qui n'amène pas une humble prière de reconnaissance est un succès entaché d'orgueil. Notre succès ne plaît pas à Dieu, et la joie qui en résulte n'est pas pure. De même, un échec qui produit le dépit, le découragement, ou bien la colère, l'impatience, montre que nous avons travaillé pour nous. Le fait d'avoir travaillé pour Dieu est déjà un succès. Le succès, il est là, dans le fait d'avoir travaillé pour le bon Dieu. Qu'il y ait échec ou succès, cela est laissé à la libre discrétion de Dieu. Bien sûr, il faut tout faire pour bien travailler, bien entendu, mais Dieu est le maître. Ajoutons un dernier écueil fort fréquent aujourd'hui et qui est bien dans la ligne de ce manque de pureté d'intention. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie du travail. Elle est le grand péché de ce monde moderne. Et c'est une tentation continuelle, fréquente, pour tout catholique qui travaille dans ce monde si loin de Dieu. Encore une fois, le travail n'a de valeur que s'il est accompli en état de grâce et avec pureté d'intention. Et cela veut dire qu'il faut respecter les hiérarchies de tous nos devoirs. Il n'y a pas un devoir qui nous plaît, qui doit primer sur les autres. Un chef de famille, un père de famille, qui travaillerait en négligeant sa vie de prière, donc ses devoirs envers Dieu, ou bien ses devoirs envers son épouse, et l'éducation de ses enfants ne travaillerait pas selon Dieu. Il y aurait là un désordre, un déséquilibre, que le bon Dieu ne saurait et ne pourrait bénir. Pour conclure, je vous lis la belle prière de Saint Pie X à Saint Joseph, que vous trouverez sous le portique. Elle nous montre si bien comment un chrétien doit accomplir son devoir quotidien. Glorieux Saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-moi la grâce de travailler en esprit de pénitence pour l'expiation de mes nombreux péchés, de travailler en conscience, mettant le culte du devoir au-dessus de mes inclinations, de travailler avec reconnaissance et joie regardant comme un honneur d'employer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu, de travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais reculer devant la lassitude, de travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de moi-même, ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrais rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines complaisances dans le succès si funeste à l'œuvre de Dieu. Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, patriarche Saint Joseph, telle sera ma devise à la vie, à la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.